Évangile de Luc, chapitre 8 et verset 40.
À son tour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. À ce même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, et j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte. » Mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Voici le troisième de ces récits qui se succèdent dans le chapitre 8 de Luc et où nous retrouvons le même enseignement général, la peur chez l'homme et en Jésus le calme. Le calme de Dieu dans l'exercice d'une puissance qui surmonte tout mal, même la mort. L'homme, lui, se sent écrasé dès qu'un mal ou un malheur l'atteint contre lequel il se sent impuissant. Il ne peut rien. Alors, s'il a la foi, si son cœur s'ouvre, si son cœur est prêt, il ira vers celui qui peut tout. Chez l'homme, c'est la panique, c'est la frayeur. En Jésus, c'est la vraie et la grande domination de Dieu sur toute adversité. Dans la circonstance que voici, la foule attendait Jésus et le rivage était couvert d'une foule de gens qui désirait le voir et l'entendre. Et cette foule le reçut avec joie et avec empressement. C'est ce que signifie l'un des mots un grec qui est ici traduit par « tous l'attendaient », c'est ce qu'il signifie. Le traducteur n'a pas pu rendre cette nuance, l'attendait avec un grand empressement. C'est dommage, n'est-ce pas? Il faudrait souvent, pour traduire, faire des périphrases. Le mot n'existe pas en langue française. Alors que la foule était là, donc, imposante, et naturellement avide de s'approcher du maître, voici quelqu'un qui survient et qui se jette aux pieds de Jésus. Les autres sont là, qui entourent Jésus, qui se le pressent, mais lui, il vient et il se jette aux pieds de Jésus, lui adressant la supplication de venir en sa maison. Qui est cet homme? Est-il l'un de ces humbles et pauvres créatures qui, libres à l'égard de toute dignité sociale, pouvaient aisément et ostensiblement s'humilier et se faire suppliante? Non pas. Cette fois, ce n'est pas un homme du peuple. C'est précisément un dignitaire, un magistrat, un chef de la synagogue. C'était une haute fonction, une fonction élevée qui appelait la considération du peuple. Les pharisiens, en un certain moment du ministère de Jésus, avaient entendu démontrer que c'était la populace, celle qui ne connaissait pas la loi, qui allait à Jésus-Christ et qui entrait en adoration devant Jésus-Christ. Et ils disaient, en effet, cela est dans l'évangile selon Jean, au chapitre 7 et au verset 48, « Y a-t-il quelqu'un des chefs et des pharisiens qui ait cru en lui ?» Allons, voyons. Vous voyez bien que les chefs, les pharisiens, sur lesquels vous avez à modeler votre attitude, votre comportement, eh bien, vous les voyez qui ne vont pas à Jésus. Alors, qu'allez-vous faire auprès de lui, n'est-ce pas? Voilà quelle était leur pensée et la direction qu'ils entendaient donner aux autres. Pourtant, outre ce Jaïrus que nous avons dans notre récit ici, deux autres hommes, tout d'abord, ce seront Nicodème, et qui était un pharisien, un docteur de la loi, et Joseph d'Arimathée, un homme riche. Eh bien, ces deux dignitaires, eux aussi, croiront en Jésus, et plus tard, après la Pentecôte, plusieurs pharisiens, un nombre certainement déjà assez imposant, deux pharisiens et deux sacrificateurs entreront parmi les humbles de l'Église, car l'Église ne peut réellement compter en son sein que des humbles. Quelqu'un qui n'est pas humble, à cela, montre lui-même nettement qu'il n'est pas de l'Église, qu'il n'est pas du corps de Christ. Il n'y a personne dans le corps de Christ qui puisse marcher la tête haute, c'est-à-dire à tête haute, avec soutenu par l'orgueil humain, n'est-ce pas, l'orgueil qui, comme dit l'Écriture, sert de collier. Eh bien, il n'y a personne de tel dans l'Église. L'Église ne doit comprendre et ne peut comprendre que des humbles. Toute dignité de laquelle se fait une parure, toute superbe, tout orgueil, doit être laissée à la porte d'entrée de l'Église, qui est la porte étroite. Si l'Église est vraiment le corps de Christ, sa porte est la porte étroite, le chemin resserré qui mène à la vie. Comment ce Jaïrus peut-il avoir trouvé le courage d'aller se prosterner aux pieds de celui que tous les chefs, cela ils ne l'ignoraient pas, tous les chefs des Juifs reniaient et méprisaient même. Eh bien, c'est qu'une chose merveilleuse s'était produite. Le Père des miséricordes, Père des lumières, le Père céleste, celui qui prend plaisir, comme a dit Jésus, à la miséricorde, venait d'attirer cet homme à son Fils. Et vous savez que il faut cela en effet. C'est une chose souvent oubliée. On oublie des choses principales, chers amis. Notre savoir est souvent incomplet, et c'est ainsi souvent que nous commettons des méprises ou des erreurs. Il faut savoir ceci dans Jean 6, versets 43 et 44. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus accorde la rédemption, le pardon des péchés, c'est lui qui a accompli la rédemption, c'est lui aussi qui sera chargé de la résurrection au dernier jour. Mais nul ne peut venir à moi, nul, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ce qui ne parle pas de l'enseignement biblique, de l'enseignement de la doctrine, mais d'un enseignement premier, d'une connaissance première suffisante pour aller à Christ. Et au verset 65 du même chapitre 6 de Jean, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'avaient pas été attirés à lui. Ils étaient venus eux-mêmes, n'est-ce pas, sans que l'acte souverain de Dieu soit intervenu. Et est-ce que le Père Céleste, notre Dieu, use d'un certain droit imprécis pour attirer à son Fils les hommes? Pas du tout, bien sûr. Seulement c'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui est l'auteur de la justice. C'est lui qui est la source de tout amour. Et par conséquent, c'est lui qui verra si une âme est prête à aller vers son Fils pour recevoir le pardon de ses péchés, ou si au contraire, cette âme ne l'est pas. Dieu connaît tous les fils de l'homme, tous. Il sait ce qu'il y a en leur cœur, lui qui les a créés, il sait ce qu'il y a. Et là s'exerce une souveraineté de Dieu qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier cela, et par conséquent, il faut, pour que le pardon des péchés soit accordé, que le Père Céleste ait en somme donné d'abord sa sanction et attiré cette âme à son Fils, il le fera s'il trouve dans cette âme l'humilité. S'il s'agit de l'orgueil, si l'orgueil est resté là, tenace, et ne veuille pas quitter la place, eh bien Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux et fait droit aux humbles. Mais nous allons voir ici, justement, c'est intéressant, dans le cas de Jaïrus, un homme qui avait toute raison d'être assez satisfait de sa position sociale, auquel certainement parvenaient les respects, les marques de respect et de considération de ses concitoyens, et certainement même l'on s'inclinait bien bas devant lui. Eh bien, voilà un homme qui, lui, va s'incliner bien bas devant le Fils de Dieu. Voilà un homme qui, donc, a subi en peu de temps un changement. C'est ce qu'il nous importe d'étudier. Je disais que le Père des Miséricordes venait d'attirer cet homme à son Fils. Et comment Dieu avait-il attiré Jaïrus à Jésus, vers Jésus? Eh bien, en lui montrant l'impuissance humaine et la vanité des élévations de ce monde devant la douleur qui saisit le cœur humain. Une douleur cuisante, une douleur lourde, une douleur que, devant laquelle, volontiers, on ferait le sacrifice de sa vie, on perdrait sa vie, comme Jésus l'a dit. Si quelqu'un veut perdre sa vie, il la retrouvera en vie éternelle. Et souvent, le Père Céleste est obligé de faire passer des hommes par le feu de l'épreuve, car sans cela, jamais ils ne se courberont. J'ai rappelé souvent ce mot de Pascal, « courber l'automate », disait-il, lui qui avait, vous le savez, été converti, n'est-ce pas ?« Courber l'automate ». Ah oui, il reconnaissait que c'était la chose la plus difficile. Dans l'homme, ce qu'il y a depuis la chute, c'est l'orgueil. Le prophète Habacuc l'a annoncé. Son âme s'est enflée. Son âme n'est pas droite en lui parce qu'elle s'est enflée. L'âme de l'homme s'est enflée. Et consentir à abdiquer tout orgueil, c'est une chose, la chose difficile. Alors, il faut souvent que Dieu emploie la tribulation, emploie ce qui va étreindre le cœur et ce qui va véritablement découvrir aux yeux d'une âme les vanités de ce monde. Jaïrus venait de laisser à la maison sa fille qui se débattait avec la mort. Et déjà, il avait réalisé l'impuissance humaine devant un tel malheur. Il avait, comme on dit, la mort dans l'âme. Avec cette terrible menace qui pesait sur l'objet le plus cher à son cœur, sa fille unique, dit le récit. Sa fille unique, âgée de 12 ans, il n'a que 7 enfants. Il est père pour cet unique enfant. Il ne peut pas être père pour un autre enfant, il n'a que celui-là. Et alors, toute son affection paternelle est là. Elle est, cet enfant, la joie de sa vie, la joie de son cœur. Mais la voici étreinte et serrée de près par une maladie mortelle. Alors, c'est dans le halo de cette douleur, de cette douloureuse appréhension, que Jaïrus mesure les vanités éphémères de ce monde et l'impuissance de tout secours humain. Les pensées de son cœur venaient de subir une transformation radicale. Le piédestal des honneurs et des flatteries humaines, tout cela lui était déjà loin de son désir. Il était prêt à tout accepter pour saisir le secours surnaturel de son Dieu. Mais sa religion n'y pouvait rien. Il fallait que, en dehors des formes qu'il connaissait si bien, en dehors des traditions religieuses, Dieu lui-même intervienne et se penche sur son enfant pour lui redonner vie. Il savait cela. Il n'y a que Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Que vais-je faire à travers les traditions? Que vais-je faire au milieu de ces habitudes religieuses?
Je sais qu'il n'y a rien là. Là, il découvre que c'est le vide. Comment va-t-il toucher Dieu à travers tout cela? Non, il sait bien que ce chemin-là est bouché. Il le sait, il le réalise. Alors, il sait aussi, il sent en son cœur que c'est Dieu lui-même. Il lui faut Dieu, il lui faut parler à Dieu, il lui faut que Dieu lui réponde, il faut que Dieu vienne en sa maison. On parlait beaucoup de Jésus, et lui-même, il en avait beaucoup entendu parler. La foule était là, justement, à proximité, pas très loin de chez lui, qui pressait ce Seigneur Jésus. Et son cœur à lui, Jaïrus, lui disait, « Maintenant, va de la part de Dieu, va, va vite auprès de Jésus, va vite auprès de ce Jésus. Là, tu trouveras Dieu qui viendra jusqu'à ton enfant, cet enfant qui lutte désespérément dans l'agonie contre la mort. Va, lui disait son cœur, va, va vers Jésus. » Et il y alla si bien qu'il ne put pas rester debout devant le Fils de Dieu. Et sans l'avoir prémédité en rien, il arrive, il voit Jésus, il se jette à terre. C'est ainsi seulement qu'il peut lui parler et lui adresser sa supplique. Déjà, en sa maison, les conducteurs du deuil et les parents se sont assemblés attendant la dramatique issue de ce malheur. La figure du monde passe, comme le rang, comme l'honneur, comme la fortune, comme la considération des autres. Mais le secours de Dieu est seul à apporter ce qui ne passe pas. Ainsi, devenu l'homme humble et suppliant que nous voyons dans le récit, Jaïrus se sent pénétré d'une lumière nouvelle. En son cœur, ce désir qui lui a dit « va, va vers Jésus », c'est une lumière nouvelle. Cette lumière, c'est celle de sa foi naissante. Il croit en la toute-puissance de celui au pied duquel il s'est prosterné. Voilà quelque chose de tout nouveau. Il croit, il le supplie, viens en ma maison. Et s'il demande cela de façon pressante, c'est qu'il croit que la visite de Jésus, c'est le secours de Dieu. Vous voyez comment dans la douleur, on peut très bien arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Et voilà ce que Dieu fait dans les cœurs qui acceptent l'humiliation, qui acceptent de s'abaisser. Celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui ne s'abaisse pas ne sera jamais élevé. Jamais celui-là n'aura le secours de son Dieu, ni la vie éternelle. Ainsi, Jaïrus croit en la toute-puissance de celui devant qui il est venu se prosterner. Il avait partagé les préventions des autres chefs sur Jésus, mais maintenant, son cœur le lui montrait, ce Seigneur, ce Maître, le lui montrait comme le puissant en œuvre, celui dont l'Évangile dit qu'il était puissant en œuvre. Et c'est la vie de son enfant qu'il vient demander au Fils de Dieu. Et voici que Jésus se met alors en route vers la maison de Jaïrus et accompagne cet homme, mais l'on ne marche pas très facilement au milieu de cette foule. La foule est là, serrée, à droite, à gauche, devant, même, derrière, et il n'est pas facile d'avancer rapidement. Certes, Jaïrus aurait voulu une marche plus rapide. Et voici que encore un incident survient qui va retarder le Seigneur. Soudain, il entend Jésus dire « Qui m'a touché ?» Marc apporte une précision dans le récit parallèle.
qu'alors Jésus se retourna. Donc Jésus est arrêté dans sa marche. Jésus se retourna et regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, qui l'avait touché, qui avait touché son vêtement. D'ailleurs, la question que Jésus pose dans Marc au chapitre 5 est celle-ci, « Qui a touché mes vêtements ?» Et Jésus donc se retourne et regarde. Certainement, Jésus n'a pas besoin de chercher bien longtemps dans la foule qui est derrière lui, quelle est celle qui a touché ses vêtements, car il sait toute chose, il la voyait, comme il avait vu Nathanaël sous son figuier, il la voit, rien ne lui était caché, mais cependant il désirait, en posant cette question, qui a touché mes vêtements, que cette femme qui l'avait touché en face, elle-même, l'aveu public, comme nous le montre le récit, elle va faire en effet l'aveu public, elle va être amenée à ça, et c'est ce que désirait Jésus. Comme le texte dit, ici la femme se voit découverte, elle se voit découverte, alors elle est obligée de s'avouer, d'avouer ce qu'elle a fait. Elle pensait, n'est-ce pas, que ce geste discret qu'elle avait fait au milieu de la foule, elle avait allongé le bras, touché le bord du vêtement, on n'y avait pas prêté attention, les autres regardaient le Seigneur, regardaient surtout son visage, elle avait fait ça, et puis elle avait senti immédiatement que la perte de sang s'était arrêtée et qu'elle était guérie, elle était heureuse, elle allait ensuite s'en aller. Jésus ne la laisse pas partir comme ça, c'est pourquoi il se retourna en lui demandant qui a touché, en demandant qui a touché mes vêtements. Alors, étant découverte, toute tremblante, nous est-il dit, elle aussi se jette aux pieds du Seigneur. Et c'est cela qu'il fallait encore, car aucune superstition ne saurait subsister. Jamais l'Esprit de Dieu, comme nous voyons que ici Jésus en a certainement le souci, jamais l'Esprit de Dieu ne laissera subsister une superstition sur un acte de Dieu. Un acte de Dieu doit être connu comme tel et dépouillé de toute superstition. Ça, Dieu ne veut pas de superstition, c'est une idolâtrie. La superstition, n'est-ce pas, c'est un sentiment religieux dévié. Et Dieu ne veut pas de cela. Il ne veut pas, n'est-ce pas, que l'on pense que quelque chose de mécanique, quelque chose de conventionnel, ou quelque chose qu'on a entendu dire et qu'on fait sans comprendre du tout, n'est-ce pas, qu'un quelque chose qui n'a pas été dit par la parole de Dieu et qui se fait donc sans aucune compréhension, tout simplement au gré d'une croyance que l'on a reçue, n'est-ce pas, c'est ça la superstition, eh bien que cela puisse nous procurer la grâce de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu ne l'acceptera jamais et il faut que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est effective, reçue, le soit dans la lumière. Il faut que l'on sache que c'est Dieu qui a béni, Dieu qui a apporté la délivrance, le secours que l'on attendait, et non point quelque superstition quelconque. Dieu ne peut jamais encourager quelque idolâtrie que ce soit. Par conséquent, là, n'est-ce pas, dans la femme, dans l'idée de la femme, il pouvait y avoir encore quelques vestiges de superstition. Vous savez, tous les âges, toutes les civilisations ont été touchées par ce penchant à la superstition. C'est un penchant humain, n'est-ce pas, disons-le, c'est un penchant humain. On la trouve partout. La superstition, absolument partout. Mais il faut s'en garder, bien entendu. Il faut s'en garder. Dieu ne peut pas accepter cela. Alors, celui qui sauve et qui guérit est une personne. Et il faut qu'on sache cela. C'est à lui qu'il faut aller.
C'est lui qu'il faut connaître comme l'auteur de toute grâce, n'est-ce pas? Il faut le connaître, lui, et savoir que c'est de lui que l'on a reçu, c'est à lui que l'on a demandé, et c'est à lui que l'on rendra grâce, à lui seul. Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu jaloux. Il ne peut pas accepter le partage. Alors intervient ce que Jésus désirait, c'est-à-dire la confession publique de cette femme. Elle déclare, nous dit notre texte, devant tout le peuple, pourquoi elle avait touché le vêtement du Seigneur. Elle est obligée de dire pourquoi, voilà, j'étais malade, et j'avais dépensé toute ma fortune pour me faire soigner par des médecins sans aucun résultat. Alors j'ai entendu parler de Jésus, des miracles qu'il faisait, alors je suis venu et je me suis dit, si je touche le bord de son vêtement, certainement je serai guéri. Alors elle est obligée d'avouer cela, et comment elle avait été aussitôt guérie, il y a là le témoignage, elle a été guérie de cette manière. Jésus a indiqué qu'une force était sortie de lui, une force, par conséquent, n'est-ce pas, une action puissante de l'Esprit de Dieu, en grâce bien sûr, mais en force aussi, en grâce et en force, était sortie de lui pour guérir cette femme. Elle avait en somme saisi elle-même la guérison, la délivrance de Dieu. Et Jésus va lui parler, après sa confession, et lui adresser non pas un reproche, mais cette parole magnifique, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, va en paix ». C'est ce que disait Jésus, c'est-à-dire « Reprends le fil de tes occupations, reprends le cours de ton existence, mais reprends-la d'une autre manière, va ». Va dans ta vie, va, continue ton chemin sur cette terre, mais en paix, mais dans la paix du Seigneur, cette paix que le Seigneur vient de te donner et qui baigne ton âme maintenant avec cette joie céleste, alors marche ainsi. Et souvent, Jésus ajoutait, va et ne pêche plus, et ne pêche plus. Ici, ma fille, regardez déjà cette interpellation, ma fille, ma fille. C'est Dieu qui parle, Dieu qui peut dire ma fille, n'est-ce pas? Ou autrement, ça aurait le goût d'une sorte de paternalisme sentimental, n'est-ce pas? Mais pour que ce soit vraiment dans la note spirituelle, c'est-à-dire vraiment un mot de l'esprit, il faut que ce mot soit celui de Dieu. N'est-ce pas? Et nous voyons là que Jésus, lorsqu'il peut dire à cette femme plus âgée que lui, « Ma fille », n'est-ce pas? Il le dit en Dieu qu'il est, n'est-ce pas? C'est Dieu qui parle, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Et ce qui est remarquable dans cette guérison, c'est que nous pouvons discerner, Dieu l'a voulu cette guérison, l'a permise, avant même que Jésus ne prononce cette parole. Et si le Seigneur a voulu cela, n'oublions pas que les évangiles sont là, n'est-ce pas, comme un fourmillement de cas, d'exemples qui nous instruisent. Dieu veut nous instruire par le fait, par le relief, dans le relief du mouvement de la vie et de l'intervention du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Alors, si Dieu a permis cela, c'est pour montrer que la foi n'est pas seulement un état de réceptivité chez l'homme, mais la foi est plus que ça. Elle est un élan de l'âme. Elle est une appropriation. La foi saisit, la foi prend. Et Dieu accepte que la foi ait cette hardiesse. Jésus l'a même appelé d'un mot qui est traduit dans nos évangiles par violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, qui s'emparent. Parce que la foi, eh bien, véritablement c'est ça, c'est s'emparer. Dieu ne veut pas de dilettantes. Il n'aime pas les dilettantes. Il y en a dans les évangiles, dans la Bible tout entière, des dilettantes. Dieu n'aime pas ces gens-là. Il n'aime pas ces gens-là. Il ne leur donnera rien. Celui qui dit, par exemple, à Dieu, « Oh, ben, Seigneur, oui, si tu veux me donner ça, bon, ben, je veux bien, oui, est-ce que vraiment tu m'appelles, est-ce que si vraiment tu me pries de faire cela, si tu m'obliges à faire cela, bon, ben, oui, c'est d'accord, je le ferai. » Non, une telle pensée, Dieu n'en veut pas. Il aime des gens décidés. Il aime des gens qui veulent prendre. Il aime, là, ce dynamisme. La foi possède un dynamisme. C'est ça, la foi. Les violents s'emparent du royaume de Dieu. Et le texte dit bien, n'est-ce pas, s'emparent. Non pas qu'ils obtiennent et on vient le leur remettre entre les mains, n'est-ce pas? Non. Dieu tient une chose et il est content de voir une main qui vient saisir cette chose. Il est content de cela. Vous n'allez pas changer Dieu, n'est-ce pas? C'est nous qui devons changer, n'est-ce pas? Qui devons changer pour nous mettre au diapason de ce que Dieu a voulu. Si Dieu veut ainsi, il a ses raisons. Il veut qu'on vienne à lui et qu'on lui prenne même, n'est-ce pas, dans les mains ce qu'il entend donner. Il est heureux de donner. Ça, la joie de Dieu, c'est de donner. Il prend plaisir à la miséricorde, n'est-ce pas? Notons bien tout cela. Lui, le Dieu juste, le Dieu trois fois saint, prend plaisir à faire la miséricorde au milieu de créatures pécheresses. Mais il veut que celles-ci, animées par une foi hardie, viennent prendre. Voyons par exemple, n'est-ce pas, la foi hardie d'un Moïse. Qui osera faire des observations à Dieu? Que dirait-on de toi, Seigneur, si tu détruisais ce peuple? Que dirait-on? On dirait que tu l'as fait sortir d'Égypte pour aller le faire mourir dans cet affreux désert. Voilà ce qu'on dirait de toi. On ne peut pas. Tu ne peux pas accepter qu'on dise cela de toi. Alors, ne détruis pas ce peuple, malgré son idolâtrie. Ne le détruis pas maintenant. Ne le détruis pas. Et il est écrit, Dieu se repentit du mal qu'il avait pensé faire à ce peuple. Non pas il se repent comme un homme, mais ça veut dire il changea. Dieu accepta de changer la pensée qui était une pensée de justice. Le peuple était vraiment là, corrompu dans l'idolâtrie, avec toute autre corruption, n'est-ce pas, qui accompagne toujours l'idolâtrie. Et puis, alors il était là. Et vraiment, n'est-ce pas, la colère de Dieu s'était déjà élevée. Et il était juste de dire, eh bien, je vais détruire ce peuple. Je vais détruire ce peuple. Et j'en prendrai un autre, je m'en formerai un autre à partir de toi, Moïse. Mais Moïse dit, non, Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple. Non, tu ne détruiras pas. Il ose avec la foi, voyez, cette hardiesse. Mais c'est l'esprit de la rédemption qui déjà passe dans le cœur de Moïse et lui fait dire cela. Un esprit de la rédemption, il ne sait pas d'où il vient cet esprit, il ne comprend pas tout Moïse, mais il est animé par cet esprit. Non Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple, tu ne le détruiras pas. Non Seigneur, que dirait-on de toi? Alors, voilà, n'est-ce pas, cette hardiesse de la foi qui plaît à Dieu. Et nous voyons ici qu'en fin de compte, eh bien, toute superstition, toute idée superstitieuse a pu être vraiment écartée, et alors le geste de cette femme qui a matérialisé sa foi, elle a matérialisé sa foi en touchant le vêtement, n'est-ce pas, même s'il y avait au départ encore quelques vestiges de superstition, eh bien, c'est devenu un geste de décision et d'appropriation du bienfait de Dieu. Cet incident ayant retardé aussi la marche de Jésus, voici qu'un messager vient de la maison de Jaïrus avec une terrible nouvelle, sa fille est morte. Et ce messager de dire avec tristesse à Jaïrus, ce n'est plus la peine que tu insistes, que tu importunes le maître, c'est plus la peine que tu insistes, elle est morte, c'est fini, c'est trop tard. Alors Jaïrus, devant cette nouvelle qui a dû lui causer certes la dernière commotion, cette commotion la plus terrible. Jairus va-t-il fléchir en sa foi? Eh bien, Jésus vient à son secours. Et il ne laisse pas, bien sûr, ce serait peut-être trop demandé encore à la foi naissante de cet homme d'aller plus loin encore dans l'espérance. Alors Jésus va lui donner cette parole pour soutenir sa foi. Ne crains pas, crois seulement. Continue de croire. Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Dieu voit différemment. Les voix de Dieu, les pensées de Dieu sont tout autres que les voix et les pensées de l'homme. Déjà, le prophète nous l'a dit. C'est que Dieu accepte la prière de la foi. Et cette prière ne l'importune jamais. Au contraire, il veut qu'on persévère. Il veut que nous faire quelquefois attendre. Il a ses raisons pour cela. Il veut nous faire attendre. Il attend même que notre foi monte, en somme, s'affermisse, grandisse et aille manifester une volonté qui va se trouver à l'égal de la sienne. Ah, quand la volonté de l'homme exprimée par la foi se trouve à rejoindre la volonté de Dieu, alors là, c'est sûr, l'exaucement est là. Et chers amis, pourquoi souvent nos prières n'obtiennent-elles pas l'exaucement? Parce que ce sont de pauvres prières qui montent un peu puis qui redescendent, qui fléchissent. Mais la prière obstinée, comme celle d'un Daniel, prie 21 jours et il serait peut-être encore en train de prier s'il était en vie, n'est-ce pas? Si l'ange n'était pas venu lui apporter la réponse de Dieu, et toute prière qui dans le monde serait vue comme une chose importune, d'ailleurs les paraboles qui nous l'enseignent montrent une importunité, n'est-ce pas? Eh bien, ces prières sont agréables à Dieu. Il ne faut pas se décourager, nous a dit Jésus, il faut prier sans cesse, prier sans cesse. Si notre prière est juste, si elle est bien dans la ligne messianique, si le Saint-Esprit encourage notre cœur à poursuivre la prière, eh bien, il faut la poursuivre inlassablement. Il y a des gens qui ont prié, qui n'ont jamais vu l'exaucement de leur prière, qui sont morts sans le voir, et l'exaucement est venu après leur mort. Ils ne l'ont pas vu, mais l'exaucement est venu. L'exaucement est venu parce qu'ils ont prié jusqu'à la fin, sans se décourager. Crois seulement, c'est-à-dire saisis, crois jusqu'à obtenir de Dieu l'impossible, jusqu'à même savoir que la mort elle-même n'arrête pas la bonté de Dieu. Crois jusqu'à t'appuyer sur les promesses de Dieu, jusqu'à te jeter dans ses bras, jusqu'à savoir que la prière, Dieu a voulu en faire pour toi un privilège, et que dans ce privilège, ce grand privilège de la prière que tu as, tu rejoins Dieu, tu atteins Dieu, tu enserres Dieu, et Dieu ne peut pas te résister. Dieu ne peut pas te résister. Si tu pries comme il convient, Dieu t'accordera. Il faut savoir que croire, donc, c'est notre bonheur. À nous, chrétiens, croire, c'est notre bonheur. Mais n'allons pas chercher notre bonheur ailleurs. Ne crains pas, mais crois seulement. Nous devrions en faire l'une de nos maximes. Ne va pas chercher toutes sortes de sources diverses et terrestres de bonheur, que ton bonheur soit dans ta foi. Crois seulement, c'est la chose que tu as à faire. Crois seulement, là tu trouveras tout ce qui te rendra heureux. Et voici que Jésus arrive à la maison de Jairus. Alors là, ce sont des pleurs et des lamentations. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les pleureurs et les parents, ceux qui conduisent le deuil, qui mènent le deuil, comme c'était dans la coutume de ce temps-là, ils étaient déjà rassemblés, ils étaient déjà là, à la maison de Jaïrus. Alors, le Seigneur arrive, il ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean, Jacques, et naturellement aux parents de l'enfant, le père et la mère, Pierre, Jean et Jacques. Même les autres disciples, il les laisse à la porte de la chambre, de la maison même. Il les laisse à la porte de la maison. Ces trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, n'oublions pas que ce sont eux qui s'approcheront aussi à Gethsémané, qui s'approcheront le plus près du Seigneur, les autres disciples seront tenus plus loin, ce sont eux qui seront témoins de cette agonie de Jésus dans le jardin des Oliviers, et puis ce sont ces trois aussi qui sont montés sur la montagne de la Transfiguration, et qui ont vu Élie, Moïse, dans la même nuée que Jésus, c'est eux qui ont contemplé ce merveilleux spectacle, et ce sont eux qui entrent pour voir là la puissance de Jésus se déployer sur la mort. Vous voyez, il y a là une leçon, chers amis. Si nous sommes de ceux qui partageons les souffrances, si nous avons part aux souffrances, nous aurons part aussi à quoi ? Au règne. Si vous souffrez avec lui, vous régnerez aussi avec lui. Ah, il ne faut pas avoir peur des souffrances. Il ne faut pas avoir peur de considérer, comme on le disait tout à l'heure, la croix, Jésus crucifié, pour le connaître dans sa gloire, dans sa résurrection. Il ne faut pas avoir peur de cela. Celui qui ne connaît pas la croix ne connaîtra pas la résurrection, ni le règne. Et celui qui n'accepte pas de porter sa croix en ce monde, ça ne veut pas dire porter des désagréments, mais ça veut dire être crucifié pour le monde, comme Paul le dit, eh bien celui-là, n'est-ce pas, se met à l'écart. Vous voyez, une part des disciples, 9 disciples, n'est-ce pas, étaient tenus à l'écart. Ces trois-là seulement voient les souffrances de la lutte de Jésus. Ils voient sa gloire, ils voient ici sa puissance. Et alors, dans la maison, tous pleuraient et se lamentaient sur la petite morte. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et que font tous ces gens-là, tous ces gens au fond misérables? Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte, c'est-à-dire voyant qu'elle était morte. Ce sont des gens qui n'ont que les apparences, n'est-ce pas, comme source de leur pensée. Ils ne pensent que d'après les apparences. Que de sentiments conventionnels et artificiels. Ces gens qui étaient là pour se lamenter, pour peut-être aussi consoler les parents, n'auraient-ils pas dû être au moins respectueux devant une parole d'espérance, une parole peut-être extraordinaire, une parole incomprise, mais tout de même une parole d'espérance? Non, ils se moquaient. Et ils se moquaient visiblement, certainement, puisque c'est noté dans l'Évangile, ils se moquaient. Quelle tristesse, chers amis, quelle tristesse que ce cœur humain enténébré. Tout est véritablement hypocrisie. Voici que, entré dans la maison, Jésus saisit par la main l'enfant qui était morte pour lui dire, enfant, lève-toi. Et l'évangile de Marc nous a conservé la parole même de Jésus. Nous en connaissons donc les accents, la parole en araméen, Talita Koumi. Telle a été la parole de Jésus, Talita Koumi. C'est une des rares paroles avec Lama Sabachthani, par exemple, qui nous sont conservés de l'araméen, puisque là, on parlait l'araméen. Talita Koumi. Voilà ce que Jésus a dit. Enfant, lève-toi. Et au prodige, l'enfant revient à la vie et se lève en effet. Alors, la chose est toute simple. Voyez, le miracle est grand et merveilleux. Il n'est pas chose de la terre, il est véritablement le ciel, la puissance de l'invisible qui est venue là, on peut dire que c'est l'infini,
qui est entré dans le fini de cette terre. Et une fois que le prodige a fait son œuvre, son esprit revenu en elle, la jeune fille se lève. Alors on rentre à nouveau dans le cours de l'existence, dans le fini, n'est-ce pas? Sur la terre, c'est ça. L'infini fait incursion, il y apporte la puissance de Dieu qui éclate dans l'accomplissement d'un miracle, d'un prodige, et puis l'infini s'en va et on retrouve les conditions de la terre, conditions dans lesquelles il faudra cependant manifester la foi et les œuvres de la foi. Alors là, Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. N'est-ce pas là l'image visible de la conversion? De la conversion. La conversion, nous avons vu tout à l'heure que Dieu, le Père, n'est-ce pas, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui envoie les âmes à son Fils. Nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Alors c'est Dieu qui envoie. Le Seigneur Jésus disait dans sa prière sacerdotale, « Ceux que tu m'as donnés, Père, je les ai gardés, ceux que tu m'as donnés. » C'est bien cela, n'est-ce pas? Le Père envoie vers le Fils. Mais quand le Fils reçoit ainsi une âme que le Père a attiré vers lui, que lui dit-il? Il lui dit, réveille-toi, il la réveille. Il la réveille de cette mort, car n'oublions pas que l'état naturel de l'homme est vu comme un état de mort. Jésus l'a dit, Paul l'a dit, n'est-ce pas? Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts, c'est-à-dire ceux qui sont dans la mort spirituelle, si vous voulez. Laisse-les enterrer ce mort. Et Paul l'a dit, nous étions morts par nos offenses, nous étions morts. Alors, Jésus, devant cette âme qui vient à lui, que le Père lui envoie, dit, réveille-toi, reviens à la vie, reviens, réveille-toi. Et c'est alors qu'il l'a fait naître de nouveau, si bien que la nouvelle naissance est véritablement le prodige d'un moment, le miracle d'un instant. C'est la rédemption de l'âme qui va préparer la rédemption du corps, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean, celui-là, je le ressusciterai au dernier jour, ce sera la rédemption du corps. Cette âme qu'il a réveillée, qu'il a ramenée à la vie, Jésus ordonne à l'Église, à ses disciples, de lui donner à manger. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Là, n'est-ce pas, il y aura les frères et les sœurs, ceux qui ont devancé cette âme dans la foi, qui seront là avec des ministères, avec des dons, pour apporter la nourriture à cette âme. Vous voyez votre responsabilité, chers amis? Car ne laissez pas la responsabilité seulement à ceux qui ont un ministère, mais toute âme, tout membre de l'Église a une responsabilité vers tout nouveau venu, vers celui qui vient. Une responsabilité, chers amis, qui est grave, qu'il faut que vous mesuriez. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Ce ne sont pas des opinions qu'il faut donner, c'est quelques paroles qui puisse soutenir, qui puisse encourager, qui puisse faire du bien. C'est une âme pour qui le Seigneur Jésus est mort, comme pour toi. Alors attention à cette âme-là. Attention à cette âme nouvelle, qui est fragile, qui est jeune. Donnez-leur à manger, donnez-lui à manger. Enseignez les paroles du Maître, voilà quelle sera la nourriture qu'on apportera à celui qui est né de nouveau. Et notre récit se termine par le verset 56. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? N'est-ce pas? Cela étonne certes l'homme, mais ce que Dieu fait sont des choses qui étonneront toujours. Puissions-nous être étonnés encore, étonnés même beaucoup, des actions merveilleuses de notre Dieu. Amen.